Vous écoutez
RMC.
Vendredi 24 juin,
l'info sur RMC.
Il est 8h sur RMC et RMC Story. Très belle matinée, très bon réveil à vous tous. Le journal de Céline Kallmann. Bonjour Céline.
Bonjour à tous. Si vous n'avez pas déjà pris vos billets de train pour cet été, bon courage. Quasi tous les trains sont complets vers le littoral. 8 millions de billets vendus. Juin, le mois de tous les records niveau climat et nous sommes retournés au coteau dans la Loire où les habitants se démènent auprès des assurances. Et puis, qui de Castres ou Montpellier soulèvera le bouclier de Brennus ce soir au Stade de France? La finale du top 14 à vivre sur RMC dès 20h45.
Visiblement, les Français ont préféré le train cet été.
8 millions de billets vendus, 10% de réservations en plus par rapport à l'été 2019, dernière année record enregistrée par la SNCF. Si vous n'avez pas déjà votre billet pour les vacances, ça va être compliqué de trouver le précieux sésame. Plus d'un TGV sur deux est déjà complet. Antoine Martin.
8 millions de billets déjà vendus pour cet été. Forcément, pour ceux qui n'ont pas anticipé, la note risque d'être salée.
Je suis en train de chercher un billet de train parce que ma mère fait sa crémaillère en Vendée au Sable d'Olonne pour le week-end du 14 juillet. Et ça m'a l'air très cher, cette histoire. C'est plus près des 150€ que des 50€ habituels.
C'est déjà très complet pour les mêmes destinations sur le mois de juillet et même sur le mois d'août.
Train complet le dimanche 17 juillet pour revenir de Bordeaux en région parisienne. Idem pour les retours de Marseille. Rien d'étonnant pour Alain Krakowicz, directeur TGV Intercité.
C'est normal, hein, c'est là vraiment où les Français veulent partir. Le conseil qu'on peut vraiment donner, c'est de se décaler de quelques jours. Et puis, s'ils veulent profiter de prix bas, d'avoir la carte avantage, puisqu'elle leur permet d'avoir des prix capés.
Pour Noémie Berkoff, experte des mobilités, une seule raison explique ce boom des réservations.
Le train, qui parfois n'était pas compétitif par rapport à la voiture, le devient grâce ou à cause de l'augmentation du prix de l'essence.
Et pour ne rien arranger, le manque de rames pourrait venir gâcher l'été. Le Parisien rapporte qu'une vingtaine de trains ont été annulés cette semaine par manque de personnel.
Et fatigué des deux années de crise sanitaire, pas forcément rassuré pour la suite. Vous allez être très nombreux à partir en vacances cet été. La période s'annonce exceptionnelle, aussi bien du point de vue des prix que de la fréquentation de certains lieux qu'il va falloir préserver. Il faut imposer des quotas pour réguler le tourisme, dit ce matin sur RMC François de Canson, président d'ATN Tourisme.
Depuis 2019, là aussi, on régule. On s'est aperçu qu'il y avait quand même des pics de fréquentation, mais les pics de fréquentation, c'est 9 jours par an au mois d'août. Donc on a décidé, au lieu de mettre 10 000 visiteurs par jour, de limiter à 6 000 avec les compagnies maritimes. C'est sur la base du volontariat. Les compagnies maritimes sont volontaires pour le faire. Ça a particulièrement bien marché l'été dernier. Les commerçants sont contents, les gens du pays sont contents et les visiteurs sont contents. Le tourisme, c'est pas de l'abattage. C'est faire vivre à quelqu'un une expérience unique. C'est ce que veulent les gens aujourd'hui.
8h02 sur RMC, Elisabeth Borne a confirmé hier la prolongation du bouclier tarifaire jusqu'à la fin de l'année. Bouclier qui gèle notamment les prix du gaz, objectif protéger les ménages de la flambée des prix. Les prix des carburants qui, eux aussi, continuent de flamber. Faire son plein n'a jamais coûté aussi cher qu'en ce moment. Il y a quelques instants, sur RMC, la ministre de la Transition énergétique, Agnès Pannier-Runacher, a confirmé des aides plus ciblées pour les gros rouleurs après l'arrêt du coup de pouce des 18 centimes.
C'est tout à fait la discussion qui est sur la table. C'est de savoir si nous faisons cet aide gros rouleur, si nous prolongeons les 18 centimes, si nous éteignons les 18 centimes, de quelle manière, à quelle date. Nous sommes au stade de la discussion. On a différents scénarios sur la table. Un scénario, comme vous l'indiquez, gros rouleur, avec l'objectif de pouvoir très vite payer, parce que c'est un des enjeux, c'est-à-dire mettre en place un dispositif gros rouleur.
Il faut immédiat, quoi.
Il faut que dès septembre ou octobre, vous puissiez avoir l'argent sur votre compte en banque.
On l'apprend à l'instant, les forces ukrainiennes ont reçu l'ordre de se retirer de la ville de Severodonetsk. Annonce alors que l'Union européenne a accordé le statut de candidat à la Moldavie et à l'Ukraine. Décision historique et symbolique, a réagi cette nuit le président ukrainien Volodymyr Zelensky alors que l'offensive russe a été déclenchée il y a pile 4 mois. 8h04 sur RMC, 7 départements sont en orange ce matin. Tarn, Aveyron et jusqu'aux Alpes du Nord. Les orages n'arrête pas et continue de faire de gros dégâts. Encore hier à Auxerre, Géraldine Demory, ce mois de juin est d'ores et déjà le plus orageux qu'on ait connu. Est-ce que le dérèglement climatique y est pour quelque chose ?
Autant le lien canicule et réchauffement climatique, là, il est vraiment évident. Autant avec les orages, c'est un petit peu plus compliqué parce qu'il n'y a pas que la chaleur qui rentre en compte. Hein, il faut aussi qu'il y ait de l'air froid en altitude. Donc, on a toujours eu des périodes très orageuses. Aujourd'hui, d'ailleurs, on n'en a pas forcément plus qu'avant. Mais ce qu'on sait, c'est qu'avec le réchauffement climatique, on va avoir des phénomènes plus violents parce que plus l'atmosphère est chaude et plus elle contient de l'eau, ce qui donne des épisodes extrêmes avec notamment des grêlons qui sont plus gros. On l'a vraiment bien vu cette semaine. Et donc, forcément, plus de dégâts.
Merci Géraldine. Hier soir, je le disais, Auxerre a été touché, jusqu'à 1000 foyers privés de courant. Et RMC est retourné ce matin au Coteau, cette ville près de Roanne dans la Loire, mitraillée par des grêlons dans la nuit de mercredi à jeudi. Les dégâts sont considérables et les habitants s'arrachent les cheveux pour évaluer les dommages auprès des assurances. Vincent Chevalier.
Il y a la poubelle dans le salon en 4-8 parce que ça coule au niveau des lampadaires.
Quelques heures après le déluge, cet habitant constate les dégâts.
Des impacts au plafond, là regardez, c'est en train de gonfler, c'est en train de tout fissurer.
Des amis accueillent désormais la famille, mais impossible de savoir pour combien de temps.
Tant que l'expert n'est pas passé, on va pas pouvoir y toucher. Et à mon avis, c'est une question de mois, puisque là on parle de milliers d'euros de travaux, même de dizaines de milliers d'euros de travaux. On pourra pas avancer nous-mêmes.
Situation tout aussi catastrophique chez le voisin, Paul.
L'eau, elle pisse des lustres, en haut c'est ça. J'ai un plafond qui devrait tomber dans pas trop longtemps.
Selon son assurance, il y en a pour plus de 30 000 euros.
Il va falloir attendre que les experts passent, qu'ils estiment. Donc si j'arrive à faire des devis, ce qui n'est pas facile apparemment, puis ils payeront directement les artisans, c'est pas moi qui avancera l'argent, mais quand ?
Des habitants désabusés et une mère en colère.
Dans des moments terribles comme ça, vous voyez les loups et les chiens arrivés.
Sandra Creuset a eu vent d'arnaque aux travaux ou à l'assurance.
Mais je peux vous garantir qu'avec les services de police et Madame la Préfète, on y veille. Donc il y aura des conséquences.
Un phénomène aussi observé dans les autres régions touchées par des intempéries. Plusieurs plaintes ont déjà été déposées.
Près de 80 000 cas de Covid en 24 heures. Le nombre de contaminations a triplé en 3 semaines. Brigitte Bourguignon, qui est toujours ministre de la Santé, en appelle à la responsabilité citoyenne, excluant pour l'instant des mesures contraignantes.
Et notez, toutes les précisions seront données à 8h30 par mon invité Gilles Pialoux, le chef du service des maladies infectieuses de l'hôpital Tenon à Paris.
C'est le jour de la finale du top 14 de rugby au Stade de France entre Castres et Montpellier. Duel atypique, la même affiche qu'en 2018, d'un côté Montpellier à la recherche du premier titre de son histoire, et le Castres Olympique qui, comme d'habitude, représente le rugby de terroir. Deux belles histoires, Wilfried Templier.
Oui, les Montpelliérains jamais titrés, emmenés par des joueurs qui tirent leur révérence. L'ancien capitaine des Bleus, Guillaume Guirado, l'emblématique du club Fulgence Ouedraogo ou encore Benoît Payog en partance pour Toulon. Tous veulent s'offrir une belle sortie, le manager Philippe Saint-André le sait.
On a un groupe qui est atypique, avec des grands anciens. Il y a des histoires d'hommes, mais dans l'envie, dans le don de soi, mon groupe se représente. Et je suis peut-être un peu old school, mais enfin ou vieux jeu, mais c'est des valeurs qui sont importantes pour moi dans un club et dans une équipe de rugby.
En face, le Castres Olympique, quatrième finale en 9 ans, rêve d'un troisième titre sur la décennie. Le CO, étendard de toute une région, loin du strass et des paillettes. Une équipe proche de son public, comme dit l'entraîneur David Darré-Carrère.
C'est une petite ville, 40 000 habitants. Donc forcément, quand on va chercher le pain le matin ou le journal, ou on nous parle du CO. Il y a cette proximité énorme avec ces supporters-là, ces habitants-là. C'est une grande famille.
Alors c'est vrai, ce soir, il n'y aura pas les stars de l'équipe de France comme Dupont ou Ntamack. Pas d'entraîneur médiatique comme le Bordelais Urios ou le Toulousain Hugo Mola. Mais il se pourrait tout de même qu'à travers ce match, une belle histoire soit racontée au Stade de France.
Wilfried Templier de RMC Sport, finale à vivre en direct sur RMC dès 20h45. Et puis, patience et courage si vous faites partie des Franciliens qui empruntent les transports en commun. Troisième grève en un mois encore une fois aujourd'hui, lors d'un événement sportif donc au Stade de France.
C'était le journal de Céline Kallmann, il est 8h08 sur RMC.
À suivre dans Apolline Matin sur RMC.
Dès dimanche, l'accès à l'une des calanques de Marseille sera limité. Le tourisme est-il une chance pour l'économie ou un danger pour l'environnement? Faut-il généraliser les quotas? Reportage à suivre et puis on en débat tous ensemble au 32-16.
RMC, 6h-8h30.
Apolline Matin.
Et vous connaissez le chemin, l'appli RMC, onglet Direct Studio ou le 32-16. Donc vous réagissez beaucoup ce matin à notre débat. Faut-il limiter l'accès aux zones bondées l'été? Faut-il durcir les règles pour protéger l'environnement? L'idée notamment d'interdire la cigarette fait réagir Franck. L'île Corse non-fumeur, très bonne chose, ils ont tout compris. Il faut protéger absolument le patrimoine naturel. Stéphane a lu une théorie, le tourisme de masse est la conséquence de la désertification de la province pour les mégalopoles. Selon lui, on récolte ce qu'on a semé dans le monde. Eric nous dit qu'il faudrait peut-être que les médias arrêtent de faire la promotion des pépites de la nature, notamment lors des JT. C'est systématique, il y a toujours un sujet de tourisme. Il ne faut pas s'étonner d'une surpopulation en conséquence. Et puis Guillaume nous parle du Costa Rica. Costa Rica où tous les parcs nationaux utilisent des quotas. Et je peux vous dire, nous dit Guillaume, que la nature a repris ses droits.
RMC, Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
C'est l'heure des fortes têtes sur RMC et RMC Story, 8h12.
Les fortes têtes.
Les fortes têtes avec cette question dont on débat depuis ce matin. Est-ce qu'il faut mettre fin au tourisme de masse? On en est là. Et dans ce studio, pour vous répondre et en débattre avec vous, il y a Jean-Pierre Nadir, bonjour.
Bonjour Pauline.
Vous êtes cofondateur de Fairmove, c'est une agence de voyage éco-responsable. Quand vous entendez depuis ce matin que désormais il faudra réserver pour aller se baigner dans les Calanques, ça vous paraît une bonne ou une mauvaise nouvelle?
Moi, si vous voulez, donc ça me paraît une bonne nouvelle pour une seule raison, c'est que 95% donc des touristes, vous savez, donc vont sur 5% de la planète. Mmh. Donc ça, et ils y vont tous au même moment, c'est-à-dire en général il y a deux mois de saison, et ils y vont tous aux mêmes horaires.
Mmh. Voilà. Ouais. Donc au même endroit, au même moment, à la même heure, c'est vrai voilà. Que
on peut se dire avec des conséquences qu'on connaît, c'est-à-dire des conséquences sur la biodiversité, des conséquences donc sur la pollution, des conséquences sur la sécurité, évidemment quand vous concentrez autant de monde donc à les endroits donnés, et donc il est évident qu'il faut gérer les flux. Voilà. Et finalement, le tourisme mondial, comment on va pas réussir à le juguler? Comment il va continuer à croître, puisque on a 1,8 milliard de touristes dans le monde, on va passer sans doute à 3 milliards puisque ce qui fait la croissance, c'est les primo-voyageants, les Chinois, les Indiens qui accèdent à la consommation et qui veulent voyager. On aura beau leur expliquer que parce que nous on a vu 10 fois les murailles de Chine, ils pourront pas venir une fois en France voir la Tour Eiffel ou Mont-Saint-Michel, on n'y arrivera pas. Et donc ce qu'il faut, c'est élargir donc les territoires et effectivement donc gérer les flux.
Alors désormais donc il y aura plus de spontanéité, ça c'est évident. Il y avait 2500 personnes par jour qui allaient dans ces calanques et ils ne veulent plus que 400 personnes grand maximum. Ce qui se fait là, est-ce qu'on peut imaginer que ça se fasse partout? Comment est-ce qu'on peut, comme vous
déjà.
Dites, gérer les flux davantage?
D'abord ça a commencé, le Machu Picchu. Si on est passé donc à 3000 personnes par jour, puis après ils ont réouvert donc à 6000. Mais avant le Machu Picchu, donc il y a quelques années, il y a 10 ans, on y allait donc de manière totalement spontanée. L'Alhambra donc en Espagne, donc ça fait maintenant plus de 20 ou 30 ans effectivement donc qu'on a mis donc des quotas. On est à 6000 grosso modo par jour. D'ailleurs, on est souvent entre 6 et 8000 par jour.
Ça marche comment d'abord visiteurs. Très concrètement pour ceux qui nous écoutent?
Ça marche comme les musées. C'est-à-dire que vous avez des horaires, donc vous avez des billets différents.
Vous choisissez un créneau, quoi.
Vous choisissez un créneau. Donc vous avez différents types de billets. Vous avez des billets donc solo. Vous avez des billets avec guide. Parce que ce qui est intéressant, c'est que du coup, on peut effectivement donc revaloriser le produit touristique. C'est-à-dire que le fait de visiter un lieu avec un guide, par exemple, ça a un côté magique. Ça vous apprend énormément de choses. Donc c'est une plus-value extraordinaire.
Et avec les enfants,
tourisme.
Franchement, j'ai redécouvert le bonheur d'aller visiter avec un guide. Les enfants.
On n'y pense jamais.
Parce qu'en fait, ils sont beaucoup plus attentifs, ils écoutent, ils suivent. C'est vrai que.
Mais ça change tout. Est-ce que c'est un métier d'expliquer, de donner effectivement.
Ce que vous nous dites en fait ce matin, c'est qu'il faut, il va falloir privilégier un peu plus la qualité à la quantité.
Ce que je dis en tous les cas, c'est que déjà, on est confronté à un volume qu'on n'arrive pas effectivement à juguler. Alors quand vous parlez de tourisme de masse, c'est quoi le tourisme de masse? Il faut quand même rappeler que le tourisme de masse, c'est un tourisme populaire qui a réussi. Parce que pendant 30 ans, on nous a expliqué qu'il fallait démocratiser l'accès au voyage, qu'il fallait que tout le monde puisse voyager, qu'il fallait baisser les prix pour que tout le monde ait accès au voyage. Donc, d'un seul coup, on nous explique que ça pollue et que finalement, il faut changer de méthode.
Il y a quelque chose d'un peu injuste pour ceux qui arrivent maintenant, quoi.
Oui,
voilà.
Exactement.
Qui se disent, attendez, là, nous, nos parents, ils en ont bien profité dans les années 60-70. Et nous, maintenant, il faudrait qu'on doive anticiper, prévoir, voire même payer. Parce que j'en viens quand même à cette question.
Oui.
Est-ce qu'on ne va pas arriver, du coup, à un tourisme de luxe? C'est-à-dire qu'en fait, seuls ceux qui ont de l'argent vont pouvoir voyager, visiter, profiter.
Ça, c'est ce qu'il faut éviter.
Bah oui.
Ça c'est l'écueil qu'il faut éviter. Alors comment on va faire pour l'éviter? Eh ben le tourisme de jauge, vous dites il faut préparer. Mais la préparation du voyage, c'est 50% du plaisir. Donc
ça peut virer au casse-tête. Pour être tout à fait honnête, le moment de la préparation des vacances.
Oui, mais plus on prépare et mieux ce sera après. Et encore une fois, redécouvrir les guides, les livres, préparer effectivement donc son déplacement, ça, et vous parliez des enfants, en famille, ça a une valeur. Or, on l'a perdu complètement à cause du digital,
barre,
où en un clic, on achète n'importe quoi.
La barre ne sera pas une barre financière. C'est-à-dire que là, par exemple, on voit sur les calanques, il faut le préciser, c'est gratuit.
C'est gratuit, voilà. Donc ça, il fallait dire tout de suite, c'est gratuit. Alors, en général, c'est payant. Ça, c'est clair qu'effectivement, donc, partout ailleurs, c'est payant. On parle de Venise, donc, en 2023. Prenez Venise. Plus de 30 millions de visiteurs. Il y a un moment donné où physiquement, de toute façon, vous pouvez pas gérer les flux. Donc, ce qu'il va falloir faire, c'est effectivement, donc, sans doute, donc, mettre des tickets payants sur les horaires qui sont les plus courus. Et ensuite, on peut effectivement donc mettre des prix beaucoup plus bas, voire pas de prix du tout, sur des horaires qui sont effectivement donc vides. Prenez un exemple. Quand vous voyagez et que vous allez visiter un site touristique, vous passez devant des restaurants à midi. Ils sont tous pleins. Tous les bus touristiques s'arrêtent à 12 heures. Ils repartent tous à 14 heures. Mmh. Si vous voulez, c'est aberrant. Mmh. Donc, ce qu'il faut faire, c'est élargir. C'est quoi les solutions? Un, on élargit les horaires.
Ouais.
Voilà. Et on peut élargir les horaires.
Pour diluer le flux.
Évidemment. Sur l'hôtel de quoi? Sur l'hôtel, en plus, des décalages horaires. Parce que tous ces gens qui arrivent de partout ont pas tous les mêmes problématiques d'horaire. Donc, on pourrait très bien imaginer avoir des visites très tôt, des visites plus tard. Les visites nocturnes, ça peut être fantastique. Quand vous voyez des sons et lumières,
ça prend une
dimension extraordinaire. Donc, on va réorganiser tout ça. Et c'est ça, le tourisme. C'est effectivement, donc, de penser à la place du visiteur pour que le visiteur vive une super expérience.
Sauf qu'il y a une vraie question qui est aussi cette question, le tourisme, ça fait vivre. Et en France, ça fait vivre beaucoup de monde. Nadia nous a appelé au 3216 depuis Rodez dans l'Aveyron. Bonjour Nadia.
Bonjour Pauline.
Nadia, vous êtes commerçante, c'est bien ça?
Oui.
Vous vendez quoi?
Nous on est sur du fruit de saison, après on est commerçant itinérant, ça veut dire qu'on est sur les marchés.
Ouais.
Et on est commerçant entre autres sur deux communes qui traversent le chemin de Saint-Jacques de Compostelle. Mm-hmm. Et je me dis que si les quotas arrivent quelque part, ils peuvent arriver partout.
Ouais.
Et les touristes l'été nous font vivre.
Ouais, donc vous voulez pas qu'on restreigne.
Mais attendez, les quotas, ça veut pas dire qu'il y aura plus de touristes, hein, qu'on s'entende bien. Au contraire, moi, je suis un pro tourisme, donc je suis pas du tout en train de dire qu'il faut limiter. Je dis, il faut régler les flux. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va étaler, on va gérer un certain nombre de problématiques.
Mais Nadia,
je pense qu'on peut régler les flux autrement qu'en devant réserver. Je pense que devoir réserver, déjà, ça enlève toute spontanéité aux vacances.
Ça, c'est sûr.
Le matin, je me lève, j'ai envie d'aller me balader dans ces calanques. Voilà, je ne décide pas un mois à l'avance.
Ça change complètement notre rapport, effectivement, au temps, à la spontanéité.
C'est vrai que les vacances, c'est aussi ça. C'est la spontanéité.
Mais les amis, c'est déjà le cas. Quand vous avez 2000 personnes dans des calanques qui peuvent en recevoir 400, de toute façon, physiquement, ça ne passe pas. Et donc, on a assisté à quoi? Des bagarres, des tensions nerveuses absolument incroyables. Des gens qui prennent des risques, donc, avec l'insécurité.
Nadia, pour le coup, on en est loin quand même. Dites-moi, sur les chemins de Saint-Jacques, il reste...
Non, on en est loin, mais ça me fait réagir tout ce que j'entends.
Bien sûr, vous anticipez quoi. Vous vous dites, un jour, ça va débarquer chez nous, quoi.
Bah, ça commence quelque part, et puis après, on sait comment ça se passe. Ça s'étend partout. Et moi, après, c'est normal que les gens se concentrent. Là, les gens, ils partent en vacances quand? Au moment des vacances scolaires.
Ouais, évidemment.
Donc forcément, on est tous un peu contraints. Il y a beaucoup d'entreprises qui ferment en août. Alors peut-être qu'il faudrait modifier d'autres choses. Moi, dans ma région, il y a, la plupart des entreprises ferment en août.
Oui.
Donc forcément, bon. Tout le monde prend les congés en août.
Mais le problème, c'est qu'en même temps, moi je veux bien qu'on régule et qu'on essaye d'étaler les vacances. Mais en même temps, le problème, c'est qu'il y a quand même toujours la contrainte des enfants. Les enfants, ils doivent rentrer à l'école le 1er septembre. Et donc, plus personne ne peut partir. Enfin, ceux qui ont des enfants ne peuvent pas partir au-delà. Nadia, quand vous disiez ça réduit toute spontanéité, vous-même, vous avez prévu de partir en vacances là?
Non.
Non. Vous allez travailler tout l'été.
C'est très spontané, donc en général, on décide de dernière minute.
Oui, c'est ça. Mais c'est pour ça que.
Généralement, nous, on fait partie des gens qui fuyons, justement, là où il y a trop de monde. Mais de par nous-mêmes, en fait, je veux dire, parce qu'on n'aime pas qu'il y ait de la foule. Et je pense qu'il faut faire confiance aux gens. Mettre une amende, il y avait l'intervenant, le président de la région PACA, je crois que j'ai entendu, qui disait qu'on pourrait même aller jusqu'à mettre une amende
si les gens n'ont pas réservé, ça sera le cas à partir de dimanche, si les gens n'ont pas réservé dans les calanques, eh bien, ils auront une amende de 68 euros s'ils ne sont pas en mesure de présenter le QR code qui prouve qu'ils ont bien réservé pour la journée. Mais justement, je me tourne vers vous, Jean-Pierre Nadir, quand même, il y a une question au-delà de ça, qui est cette histoire de la spontanéité. Moi, je veux bien, hein, vous le dites, c'est déjà le cas. Oui, de fait, c'est déjà le cas. Mais j'avoue que c'est plus des vacances. C'est-à-dire que quand on part et qu'on
doit
à l'avance savoir où est-ce qu'on va déjeuner, où est-ce qu'on va dîner, à quelle heure, quand on
est... Mais Apolline, c'est ce que
terrible.
Vous faites à Paris lorsque vous voulez déjeuner sur une terrasse.
C'est insupportable.
Vous arrivez, alors vous êtes connu, peut-être que vous avez une table,
non,
mais sinon les
là,
autres...
Non, j'ai aucun passe-droit.
Non, mais je plaisantais.
Je n'en demande pas. Mais je trouve juste que c'est vrai que c'est devenu de plus en plus pénible.
Je ne suis pas d'accord avec vous parce que...
Moi, j'ai pas envie de savoir dès le jeudi où est-ce que je vais déjeuner le samedi à midi.
Non, mais parce que là, on globalise tout. On parle là actuellement de 10 sites. Ou de 15 sites ou de 20 sites dans le monde, d'accord? Donc, sur deux mois de l'année, on ne parle pas effectivement. Donc là, Nadia nous explique qu'elle travaille tout l'été. Donc Nadia, elle partira en septembre, et en septembre, vous n'avez plus le problème. On peut voyager très différemment. Regardez, tous vos amis, quand vous leur demandez vous allez où, ils vont vous dire quoi? En Grèce. Depuis 3 ans, tout le monde va en Grèce. Allez au Portugal, qui était la destination à la mode, donc il y a 4 ans, et qui d'un seul coup, donc, a des plages presque vides, du côté de Porto. Donc, pourquoi tout le monde va au même endroit au même moment? C'est toute la problématique posée. Donc, quand je vous parle de gérer les flux, ça veut dire être un peu malin. Pour bien vivre ses vacances, il faut être tactique. Et donc, il faut inverser un peu les flux par rapport aux autres.
Qu'a expliqué Nadia.
Vous parlez de la Grèce. Est-ce que le Covid n'a pas aussi déréglé les flux dont vous parlez, justement? Parce que la Grèce, on y allait parce qu'on ne pouvait pas aller ailleurs, il y a encore un an ou deux.
Oui, mais on continue à y aller. Alors, d'abord, parce qu'il faut rappeler que la Grèce a plus de 500 000 chambres d'hôtel, donc c'est un très grand pays touristique. Donc, évidemment, l'offre crée aussi la demande. Le rapport qualité-prix est magnifique. On y mange très bien. Les gens sont très sympathiques. Et la qualité de la vie est extrêmement agréable.
Mais c'est le cas aussi
ceci
au Portugal.
Dit, c'est le cas en Espagne, c'est le cas au Portugal, c'est le cas en Sicile, enfin en Italie, etc. Et donc pourquoi d'un seul coup tout le monde se concentre sur la même destination? Parce que vous en avez parlé tout à l'heure, il y a aussi les effets de mode. Et donc il y a tout un modèle de marketing qu'il faut aussi complètement réinventer. C'est-à-dire quand on parle de gérer les flux, c'est tout un modèle qu'il faut repenser. C'est pas uniquement effectivement donc à l'instant T, parce que le problème qui se pose au Calanque, il se pose dans un certain nombre d'endroits qui développent ce qu'on appelle l'entrepôt-tourisme, c'est-à-dire des habitants qui en ont marre des touristes, alors qu'en fait il faut trouver un monde apaisé.
Jean-Luc nous appelle de Marseille. Bonjour Jean-Luc.
Oui, bonjour.
Jean-Luc, vous êtes jardinier à Marseille. Est-ce que si vous vouliez aller dans les Calanques, le fait de devoir anticiper, prévoir, etc., vous trouvez que c'est une bonne chose ou une mauvaise chose?
Non, mais je veux dire, c'est le contexte aussi qui fait, et puis les infrastructures. C'est-à-dire que moi, je suis né aux portes des Calanques, d'accord.
Oui.
Maintenant, j'habite un peu plus loin, on va dire. Si je dois descendre voir la famille le dimanche ou le week-end, j'y vais pas, quoi.
Ouais,
j'y vais pas, parce que je sais jamais quand je vais rentrer.
Ouais.
Moi, ça m'est arrivé pour repartir de là-bas, pour revenir chez moi, le soir à 11h30, avec 3h30.
C'était à touche-touche dans un embouteillage sur la route de la côte.
Je veux dire, excusez-moi, je ne t'entends pas très bien, mais ce que je veux dire, c'est que il y a tout ce qui va autour. Je veux dire, si vous voulez aller prendre un bateau et aller balader en mer, vous caler tranquille, comme on dit, dans une calanque, vous y allez jusqu'à 10h. Après, vous rentrez à la maison parce que vous retrouvez encerclé de bateau, quoi. Je veux dire, il faut voir ce qui se passe, quoi. Il y a des bagarres.
On était arrivé à un niveau.
C'est n'importe quoi.
On était arrivé à un niveau insupportable. Vous dites des bagarres, vous en parliez aussi. Ça veut dire, vous avez constaté ça, Jean-Luc? Vous avez vu que ça n'était plus agréable, en fait?
Ah ben non, bien sûr. Pourtant, je vous dis, j'y suis né. Et même, je me demande, les gens, quel plaisir ils ont à se taper 3 heures de queue pour repartir, surtout.
Ouais.
Pour repartir, je me posais la question. Je me disais, mais où est le plaisir, quoi?
Ah ouais.
Le plaisir. Et puis donc ça veut dire, je vous raconte pas les flux de voitures qu'il y a.
Bien sûr.
Parce qu'en fait c'est un cul de sac.
Oui, la route est étroite, il y en a qu'une. Mais Jean-Luc, cela dit, dites-nous une chose. Est-ce que s'il y avait une priorité pour les résidents comme vous, vous trouveriez ça juste?
Alors, je trouverais ça injuste, bien entendu. Je veux dire, moi, j'ai un peu bougé dans le monde. En fait, je pense plus que c'est un problème d'organisation que de prioriser le résident. Moi, ce que j'ai trouvé admirable, c'est par exemple le Mont-Saint-Michel.
Oui.
Ce qu'ils ont mis en place au Mont-Saint-Michel avec un grand parking à un endroit et des navettes qui font les allers-retours sur le parking, c'est génial. C'est génial. Alors que j'y suis allé avant qu'ils mettent ça en place, c'était un peu n'importe quoi.
Ouais, c'était le chaos, c'était le chaos.
Pardon ?
C'était le chaos.
Voilà, c'était le chaos. Et alors que là, j'ai trouvé ça super bien organisé.
Je trouve que votre idée, elle est très bonne, Jean-Luc, parce que c'est vrai que la route qui va de Marseille au Calanque, du centre-ville au Calanque, elle est extrêmement étroite. C'est une espèce de fil continu de voitures. Et comme le dit Jean-Luc, pour revenir, c'est l'enfer. Pourquoi pas carrément l'idée des navettes?
Oui, alors les aménagements du Mont-Saint-Michel, si vous voulez, donc c'est plusieurs dizaines, voire des centaines de millions d'euros. C'est-à-dire que
c'est un investissement.
L'investissement est colossal. Donc, si vous voulez, là, on n'est pas du tout sur le même site touristique. C'est un des trois grands sites touristiques français. Et donc ils ont mis l'aménagement qui allait avec, et puis il y a toute une logique commerciale autour, donc qui n'est pas le cas non plus des Calanques. Mais quand on parle de gérer les flux, en tous les cas, il l'a très bien expliqué, effectivement, quand on ne le fait pas, on voit les conséquences.
On en voit les conséquences. Merci Jean-Pierre Nadir d'être venu notre forte tête du jour. Vous êtes cofondateur de Fairmove, littéralement le mouvement juste.
Oui,
c'est exactement ça.
Et donc on promeut donc le tourisme responsable, c'est-à-dire effectivement réconcilier la planète, les visiteurs, donc et les populations locales.
Et là, c'est visiblement l'objectif, en tout cas dans les Calanques. Merci à vous tous d'avoir débattu ce matin. Dans un instant, mon invité, c'est Gilles Pialoux. Il est chef du service des maladies infectieuses de l'hôpital Thonon. Bah oui, parce que tristement, le Covid revient. Le point précis sur les risques ou pas, c'est dans un instant sur RMC BFM TV.
RMC 6h 8h30.
Apolline Matin.